Et avant de débuter, l'impression d'être dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Déjà fini, dommage. Bon, avant de débuter, je vais aussi prier pour ce moment. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu es un Dieu bon. Et notamment, nous voulons te remercier pour la parole. C'est toi qui nous l'accordes. C'est ta parole. Et nous voulons te remercier pour la Bible. Merci parce que tu nous enseignes. Merci parce que tu nous apprends des choses sur toi, sur qui tu es et aussi sur ce que tu as fait pour nous. Et merci parce que ta parole est source d'émerveillement et de joie. Et merci pour le privilège de pouvoir plonger les regards dans ta parole et plonger les regards sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, pour ce matin, une question. D'ailleurs, si la technique pouvait envoyer le PowerPoint, ce serait super. Comme ça, on verrait la question. Qui peut être à la hauteur des attentes de Dieu ? Qui peut être à la hauteur des attentes de Dieu ? Alors certains répondront peut-être à cette question en disant « Bon, c'est vrai que je ne suis pas parfait, mais tout de même, je suis quelqu'un de bien. Je trie mes déchets, je paye mes impôts, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais tué. Il m'arrive d'aller à l'église de temps en temps. » Même parfois de donner la dîme. Bref, j'imagine que Dieu m'a à la bonne. D'autres, au contraire, répondront « Évidemment que je ne suis pas à la hauteur des attentes de Dieu. Je ne sais que trop bien à quel point je fais le mal. Ma cupidité, mon incapacité à réfréner mes colères, mon addiction à la pornographie, ou cette collègue qui m'attire, avec laquelle je me rapproche dangereusement alors que je suis marié, je me sens coupable. Et même, pour tout dire, écrasé par cela. Qui peut être à la hauteur des attentes de Dieu ? Alors le livre de la Genèse nous a rappelé que Dieu a créé l'homme et la femme et que ces derniers ne se sont pas montrés à la hauteur de ses attentes. Dieu a pris soin d'eux, il les a bénis, mais l'homme s'est rebellé, il a rejeté Dieu. Et la suite n'a été qu'une succession de chutes morales, l'homme s'enfonçant de plus en plus dans le mal. Pourtant, Dieu a promis qu'un jour cela changerait. Un descendant d'Ève réglera le problème du mal, il écrasera la tête du serpent. Alors la question qui se pose dans cette série de Genèse, c'est que maintenant on étudie les textes qui concernent Abraham, alors on peut se poser la question, est-ce que Abraham serait cette personne tant attendue ? En effet, Abraham, nous l'avons vu, a été choisi par Dieu, et Dieu a promis de le bénir en lui accordant une descendance. Et cette descendance deviendrait une grande nation. Et même au travers d'Abraham et de cette descendance, Dieu a promis que ce seraient toutes les nations de la terre qui seraient bénies. Et on voit, à travers ses promesses, que Dieu restaure le monde perdu d'Éden. Alors, Abraham est-il l'homme attendu ? Abraham est-il à la hauteur des attentes de Dieu ? Alors, je vous invite à lire le texte de ce matin. Donc, c'est à la page 14 des Bibles blanches, Genèse 20. On lira tout le chapitre, plus les versets 1 à 7 du chapitre 21. Genèse 20. Abraham partit de là pour la région du Négev. Il s'installa entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait à propos de sa femme Sarah, « C'est ma sœur. » Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut à Abimélec dans un rêve pendant la nuit et lui dit, « Tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle est mariée. » Abimélec, qui ne s'était pas encore approché d'elle, répondit, « Seigneur, détruirais-tu même une nation juste ? Ne m'a-t-il pas dit qu'elle était sa sœur, et elle-même n'a-t-elle pas dit qu'il était son frère ? C'est avec un cœur intègre et des mains innocentes que j'ai agi. » Dieu lui dit dans son rêve, « Je sais moi aussi que tu as agi avec un cœur intègre, si bien que je t'ai moi-même empêché de pécher contre moi. Voilà pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car c'est un prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. » Abimélec se leva de bon matin, appela tous ses serviteurs et leur raconta toute l'affaire. Ces gens furent alors saisis d'une grande frayeur. Abimélec appela aussi Abraham et lui dit « Qu'est-ce que tu nous as fait? Quel péché ai-je commis contre toi pour que tu fasses venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis envers moi des actes qui ne doivent pas se commettre. » Abimélec dit encore à Abraham « Quelle intention avais-tu pour agir ainsi ?» Abraham répondit « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, puisqu'elle est la fille de mon père. Seulement, elle n'est pas la fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu m'a fait errer loin de ma famille, j'ai dit à Sarah « Voici l'acte de bonté dont tu pourras faire preuve envers moi. Partout où nous irons, présente-moi comme ton frère. » Abimélec prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et il les donna à Abraham. De plus, il lui rendit sa femme Sarah en disant « Mon pays est devant toi, installe-toi où il te plaira. » Quant à Sarah, il lui dit « Je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Ce sera pour toi comme un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi. Ainsi ton innocence sera prouvée devant tous. » Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimélec, sa femme et ses servantes, de sorte qu'elles purent avoir des enfants. En effet, l'Éternel avait frappé de stérilité tout le foyer d'Abimélec à cause de Sarah, la femme d'Abraham. L'Éternel intervint en faveur de Sarah comme il l'avait dit. Il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Sarah tomba enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au moment fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham appela Isaac le fils qui lui était né et que Sarah lui avait donné. Il circoncit son fils Isaac lorsqu'il fut âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance de son fils Isaac. Sarah dit « Dieu m'a donné un sujet de rire, et tous ceux qui l'apprendront riront de moi. » Elle ajouta « Qui aurait osé dire à Abraham, Sarah allaitera des enfants? Pourtant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. » Jusqu'ici la parole de Dieu. Qui peut être à la hauteur des attentes de Dieu? Malheureusement, la lecture du chapitre 20 nous montre que même un héros de la foi, comme Abraham, n'est pas à la hauteur des attentes de Dieu. Et alors cette mauvaise nouvelle constituera notre première partie. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans un second temps, nous verrons que cela n'empêche pas l'accomplissement des promesses de Dieu. Donc voici notre feuille de route pour ce matin, pour ceux qui ont de bons yeux. Donc un héros de la foi très décevant, mais qui n'empêche pas Dieu d'accomplir ses promesses. Alors un héros de la foi bien décevant, il s'agit du chapitre 20 et des versets 1 à 16. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a deux personnages majeurs dans ce chapitre. D'un côté, il y a Abraham, un champion de la foi, qui se montre bien décevant. Mais de l'autre côté, il y a Abimélec, un païen bien respectable. Alors commençons par Abraham. Abraham a quitté Mamré pour rejoindre le sud. Et il se retrouve dans une région cananéenne. Et là, il a recours au même mensonge qu'au chapitre 12. Craignant que les autochtones ne le tuent pour prendre sa femme, eh bien il décide de la faire passer une nouvelle fois pour sa sœur. En fait, ce chapitre 20 nous montre la dernière menace sur la naissance d'Isaac, et contre toute attente, elle vient d'Abraham lui-même. Abraham enchaîne les fautes, et la liste est longue. Alors je n'en relèverai que 5. Premièrement, Abraham croit que Dieu a besoin de son action, de son aide. En effet, s'il meurt, eh bien comment Dieu pourra réaliser sa promesse de lui accorder une descendance? La seule option semble, pour Abraham, celle de pécher, en mentant et en exposant sa femme à l'adultère. Mais le péché n'est jamais, jamais la bonne solution. Nous ne devons jamais douter de la capacité de Dieu à accomplir ses promesses. Deuxième faute, Abraham rejette en partie la faute de ce qui se passe sur Dieu. Verset 13. Lorsque Dieu m'a fait errer loin de ma famille, l'appel de Dieu est présenté comme une sanction, alors que cet appel est la plus grande des bénédictions. Troisième faute. Abraham expose sa femme, nous l'avons dit, au déshonneur. Une nouvelle fois, il n'assume pas son rôle de protecteur envers sa femme. Quatrième faute, et non des moindres. Abraham agit mal aussi envers Abimélec et son peuple, parce qu'il expose aussi le roi de Guérar à l'adultère. Et sans doute parce qu'Abraham méprise les païens. En tout cas, il sous-estime leur honnêteté. Il les voit comme des monstres sans morale, des êtres violents, incontrôlables. Enfin, cinquième et dernière erreur, il témoigne d'une étonnante incapacité à apprendre. Nous l'avons dit, il commet là le même péché qu'au chapitre 12 avec Pharaon. Alors qu'entre-temps, Dieu s'est davantage révélé à lui. Dieu lui a réaffirmé de nombreuses fois ses promesses et Dieu a même fait alliance avec Abraham au chapitre 15. Mais malgré tout cela, Abraham laisse la peur prendre le dessus. Abraham n'est pas à la hauteur des attentes de Dieu. Il se montre décevant, et cela d'autant plus qu'il souffre de la comparaison avec l'autre protagoniste, Abimélec, un païen bien respectable. Alors d'abord, on peut noter que le roi païen apparaît beaucoup plus moral, juste et sage qu'Abraham. Verset 9. Abimélec déclare « Quel péché ai-je commis contre toi pour que tu fasses venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché ?» Abimélec considère l'adultère comme un grand péché et il refuse de commettre ce péché. Mais aussi notons que Abimélec témoigne d'une véritable crainte envers Dieu. On voit qu'il se conforme immédiatement à la demande de Dieu. Et cette crainte de Dieu semble même partagée par son peuple. Verset 8, Abimélec se leva de bon matin, appela tous ses serviteurs et leur raconta toute l'affaire. Ces gens furent alors saisis d'une grande frayeur. Enfin, Abimélec montre une véritable et étonnante grâce envers Abraham. Verset 14 et suivant. Abimélec prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, il les donna à Abraham. De plus, il lui rendit sa femme Sarah en disant « Mon pays est devant toi. Installe-toi où il te plaira. » Abimélec prouve le pardon qu'il accorde à Abraham par des présents. Alors que le mensonge d'Abraham a failli lui coûter la vie, Abimélec rétablit la relation avec Abraham. Abimélec agit avec intégrité et même avec générosité. Pour autant, est-ce suffisant pour être à la hauteur des attentes de Dieu ? Alors nous y reviendrons, mais d'abord voyons quels enseignements tirer de ce triste épisode. Alors je retiendrai deux défis et deux encouragements. D'abord les défis. Le premier, ne méprisons pas ceux qui ne croient pas ou n'adorent pas notre Dieu. Ne méprisons pas ceux qui ne croient pas ou n'adorent pas notre Dieu. Juste avant, les chapitres 18 et 19 nous ont montré toute la noirceur du cœur des habitants de Sodome. Et Moïse, l'auteur, met peut-être ici en garde les Hébreux, les premiers lecteurs. Il est en train de leur dire « Attention, attention. Oui, vous êtes le peuple de Dieu. Mais cela ne signifie pas que vous êtes très bons et les païens seraient très mauvais. Vous n'avez pas été choisis parce que vous auriez des qualités morales supérieures à celles des païens. » Et bien évidemment, cette mise en garde vaut aussi pour nous. Notre cœur n'est pas moralement supérieur à celui des non-croyants. Nos collègues, nos voisins sont parfois plus généreux, plus persévérants, plus aimants que nous. Et certaines personnes qui n'adorent pas notre Dieu sont parfois plus pieuses que nous. Personnellement, quand j'observe certains de mes amis musulmans, je me sens parfois repris. Leur discipline dans la prière 5 fois par jour, leur persévérance dans le jeûne, leur abstinence envers l'alcool. Ils ont une piété qui bien souvent mérite notre respect. Ne méprisons pas ceux qui ne croient pas ou n'adorent pas notre Dieu. Second défi, ne nous croyons pas plus forts que nous ne le sommes réellement. Ne nous croyons pas plus forts que nous ne le sommes réellement. Abraham est un héros de la foi. Mais cela ne l'a pas empêché de chuter et de rechuter à nouveau. Notre vie de lutte contre le péché n'est malheureusement pas une progression linéaire. Il y a des chutes, mais aussi des rechutes. Il y a des péchés récurrents dans nos vies. Et nous pouvons tous signaler une faute, même des fautes, qui reviennent régulièrement. La force de la tentation et la faiblesse de notre chair ne doivent jamais être sous-estimées. Ne nous croyons pas plus forts que nous ne le sommes réellement. Mais ce texte a aussi des encouragements. Premier encouragement, ne pensons pas que nous devons être les meilleurs pour être utilisés par Dieu. On voit ici Abraham, mais plus tard, on verra le roi David, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre. Les plus grands serviteurs de Dieu ont connu de graves chutes. Mais Dieu réhabilite ses enfants au travers d'une repentance sincère. Et il s'en sert pour accomplir ses projets. Deuxième encouragement, ne croyons pas que Dieu nous abandonnera. Ne croyons pas que Dieu nous abandonnera. Abraham a lourdement chuté. Pourtant, nous allons le voir, Dieu va quand même accomplir ses promesses pour lui. La peur a conduit Abraham à oublier Dieu, mais Dieu, lui, n'a pas oublié Abraham. Nous sommes dans la main de Dieu et nul ne peut nous en ravir, pas même nos chutes. Alors, attention, parce que ceci est un encouragement puissant, mais attention parce qu'il doit être pris avec les défis que nous venons d'évoquer. Car autant les défis sans les encouragements peuvent être écrasants, autant les encouragements sans les défis peuvent nous conduire au laxisme. Or, notre Dieu ne veut ni l'un ni l'autre. Ne croyons pas que Dieu nous abandonnera. Et cet encouragement se fonde sur notre seconde partie, parce que même si Abraham s'est montré décevant, cela ne remet pas en cause les promesses de Dieu. Là, c'est le chapitre 20, verset 17, ainsi que le chapitre 21, verset 1 à 7. Cet épisode peu reluisant de la vie d'Abraham est immédiatement suivi par l'accomplissement de la promesse. Et cette juxtaposition de la chute d'Abraham dans un premier temps, suivie par la bonté et la fidélité de Dieu maintenue malgré cela dans un deuxième temps, fait sens. L'auteur nous fait passer un message. Malgré son indignité, Dieu bénit Abraham. Il lui accorde le fils qu'il lui avait promis. Alors pour tenter de comprendre cela, je vous propose trois temps. D'abord, nous verrons les cas d'Abraham et Abimélec, la grâce plutôt que les mérites. Après, nous verrons les cas d'Abraham et Sarah, comment bénéficier de cette grâce. Et enfin, nous dirigerons nos regards vers l'œuvre de Jésus en nous posant la question, la grâce se fait-elle au détriment de la justice ? Alors commençons par les cas d'Abraham et d'Abimélec. La grâce plutôt que les mérites. Les versets 7 et 17 du chapitre 20 sont remarquables. Verset 7. Maintenant rends la femme de cet homme, car c'est un prophète. Et voici la conclusion du passage du chapitre 20, verset 17. Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimélec, sa femme et ses servantes, de sorte qu'elles purent avoir des enfants. Nous l'avons dit, Abraham a agi de façon méprisable, alors qu'Abimélec s'est montré sage et généreux. Mais pourtant, au final, c'est Abraham qui prie pour Abimélec, et non l'inverse. Sa faute ne disqualifie pas Abraham. Malgré sa faute, il reste le prophète de Dieu. Alors de toute évidence, ce statut n'est pas mérité. Abraham a été choisi, a été sauvé par grâce. Il a reçu ce statut, il ne l'a pas mérité. A contrario, malgré ses bonnes actions, Abimélec reste sous la malédiction de Dieu. Et on voit qu'il a besoin de l'intercession d'Abraham pour que cette malédiction soit levée. Dieu lui-même a salué le cœur intègre d'Abimélec au verset 6. Mais nous voyons ici que son intégrité morale ne suffit pas. Abimélec, même s'il s'est montré juste cette fois-là, n'en reste pas moins pécheur. Même si, à cette occasion précise, il a répondu aux attentes de Dieu, Abimélec ne sera jamais à la hauteur des attentes de Dieu sur la base de ses actes. Seul Abraham est au bénéfice de la grâce de Dieu. Mais alors, comment ça marche? Et là, on est dans les versets 1 à 7 du chapitre 21, et on va s'attarder sur les cas d'Abraham et de Sarah, parce que ça nous éclaire sur ce point. Comment bénéficier de cette grâce? Alors, souvenez-vous, au chapitre 15, Dieu a fait alliance avec Abraham. Mais dans une alliance, chacun s'engage à quelque chose. Lors de notre mariage, mon épouse et moi-même, nous nous sommes mutuellement engagés. Chacun a promis respect et fidélité, secours et assistance, et communauté de vie, articles 212 à 215 du Code civil. Mais entre Dieu et Abraham, les obligations n'étaient pas réciproques. Dieu s'engage à bénir Abraham de bien des manières, mais il le fait de manière unilatérale. Dieu est d'ailleurs le seul à passer entre les animaux sacrifiés, c'est-à-dire que c'est l'équivalent de la signature en bas du contrat de mariage. Mais de son côté, quelles étaient les obligations d'Abraham? La seule obéissance qui était attendue de sa part, c'était celle de la foi. La foi. Genèse 15, verset 6, « Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. Croire Dieu, lui faire confiance. » Alors, venons-en au cas de Sarah. Notre texte, à partir du début du chapitre 21, se focalise sur Sarah. Or, justement, nous avions laissé Sarah dans une bien mauvaise position concernant la foi. Alors, souvenez-vous, c'était au chapitre 18. On peut relire Genèse 18 à partir du verset 10. Donc, l'Éternel est venu visiter Abraham sous la forme de trois hommes, trois anges. Voici ce qui nous est dit au verset 10. L'un d'eux dit, « Je reviendrai vers toi à la même époque, et ta femme Sarah aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente, derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en se disant, « Maintenant que je suis usée, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ? Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel ? Au moment fixé, je reviendrai vers toi à la même époque et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri, car elle eut peur. » Mais il dit, « Au contraire, tu as ri. » Sarah ne croit pas à la promesse et elle en rit de dépit. Or, ici, dans notre texte de ce matin, nous la retrouvons en train de rire. Mais ce n'est plus le même rire. Ce n'est plus le même rire. Au chapitre 18, c'était un rire sinistre. Un rire où se mêlait l'amertume. Moi, vieille, desséchée, j'aurai un enfant. Pff, mais quelle blague! Mais aussi d'incrédulité. Mais Dieu, mais tu fais une promesse ridicule. Jamais tu ne pourras la tenir. Ici, le rire de Sarah est différent. Verset 6. Sarah dit, « Dieu m'a donné un sujet de rire et tous ceux qui l'apprendront riront de moi. » Une meilleure traduction serait « riront avec moi ». Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un rire de joie et de confiance en Dieu. Dieu a transformé son rire amer en rire de bonheur. Alors, comment l'a-t-il fait? Alors vous allez me dire, c'est simple, il lui a donné son fils, donc dans ces conditions, c'est quand même plus facile de rigoler. En fait, la Bible nous apprend que Sarah a fait un cheminement entre le chapitre 18 et maintenant. Souvenez-vous donc, au chapitre 18, Dieu a invité Sarah à la foi. Il l'a confrontée au défi de la foi. Et voilà comment il a fait évoluer Sarah. Chapitre 18, verset 14, Dieu lui a dit, « Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel ?» Alors c'est une réprimande. Dieu lui reproche son manque de foi. Mais c'est aussi une invitation à croire. Dieu lui dit, « Sarah, si seulement tu croyais, je vais bientôt faire bien plus que tu ne pourras jamais imaginer. Je vais remplir ta vie d'émerveillement. Simplement, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. » Et c'est ce que Sarah a finalement fait. Et ça, c'est la parole qui nous l'apprend en Hébreux 11, verset 11, page 793. Voici ce que nous dit l'Épître aux Hébreux. « C'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. » Abraham et Sarah nous montrent comment être au bénéfice de la grâce de Dieu. C'est en lui faisant confiance, en plaçant notre foi en lui. Mais qu'en est-il de la justice? C'est notre dernière réflexion avant de conclure. Ce passage peut nous choquer. D'un côté, nous avons Abimélec, un homme intègre, scrupuleux, mais qui subit la malédiction de Dieu. Et de l'autre côté, nous avons Abraham, qui chute, qui rechute, mais qui reçoit la bénédiction constante de Dieu. Est-ce que Dieu ne s'intéresse pas à nos actes? Que nous fassions le bien ou le mal, est-ce que ça lui est égal? Non. Non, loin de là. Alors, l'épisode précédent de Sodome nous l'a déjà montré, mais ici, le verset 6 aussi nous le montre. Dieu lui dit dans son rêve, donc Dieu dit à Abimélec, « Je sais moi aussi que tu agis avec un cœur intègre, si bien que je t'ai moi-même empêché de pécher contre moi. » Dieu ne méprise pas l'intégrité d'Abimélec, il en tient compte. Mais son intégrité ne le rend pas juste aux yeux de Dieu. Pourquoi ? Mais parce que Dieu est saint. Dieu est saint. En fait, le problème n'est pas que Dieu ne s'intéresse pas à notre justice. Le problème, c'est que Dieu s'intéresse trop à notre justice. Dans le sens où notre Dieu saint ne peut pas tolérer la moindre injustice en nous. Son exigence de sainteté est totale, totale. Et cela disqualifie les meilleurs d'entre nous. Par nous-mêmes, il nous est impossible de satisfaire l'exigence de justice de Dieu. Impossible d'être à la hauteur des attentes de Dieu. Alors Clémenceau disait « La guerre, c'est une chose trop grave pour la confier à des militaires. » Eh bien Dieu nous dit ce matin « La justice, c'est une chose trop grave pour la confier à des humains. » Mais alors, si la justice est au-delà de notre portée, de nos capacités, comment faire? Eh bien notre passage nous suggère la réponse et ce sera notre conclusion. Si nous ne pouvons pas nous rendre justes par nous-mêmes, cela signifie que notre seul espoir consiste à recevoir cette justice. Si nos efforts ne sont pas suffisants pour devenir justes, cela signifie que la seule solution, c'est que quelqu'un nous donne cette justice. Et c'est ce que préfigure ce passage de deux manières. D'abord par l'intercession d'Abraham. Nous avons vu qu'au verset 17 du chapitre 20, Abraham intercède pour Abimélec. Et c'est cette intercession d'Abraham qui met fin à la malédiction. Dieu avait annoncé qu'Abraham et sa descendance seraient une source de bénédiction pour toutes les nations. Dieu allait se servir d'Abraham et de sa descendance pour renverser les effets du mal. Eh bien, nous en voyons ici le début avec cette intercession d'Abraham en faveur d'Abimélec le païen. En cela, Abraham préfigure ici notre Seigneur Jésus. Car il en va de même pour tous ceux qui se confient en Jésus. Jésus sera le descendant d'Abraham, par lequel Dieu bénira toutes les nations. Romains 8, verset 4. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Jésus est l'intercesseur parfait et unique que Dieu nous a donné. Le seul à pouvoir changer la malédiction de notre péché en bénédiction de notre salut. Mais ce passage préfigure autre chose. Alors vous vous souvenez que Dieu avait annoncé dès le début de la Genèse qu'il allait régler le problème du mal par la descendance d'Ève. Genèse 3, verset 15, « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et dans notre passage, la promesse d'une descendance s'accomplit. Il est question de la naissance d'Isaac, le fils de la promesse. Mais ce n'est pas une naissance classique. Il s'agit ici d'une naissance miraculeuse. Alors il est difficile de ne pas remarquer une similitude entre cette naissance d'Isaac et la naissance de Jésus. Nous l'avons vu au chapitre 18, verset 14, Dieu dit à Abraham, « Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel ?» Eh bien, des siècles plus tard, un autre ange visite une autre femme incrédule. Cet autre ange lui parle d'une autre naissance miraculeuse et il répond à son doute en disant, rien n'est impossible à Dieu. Une autre manière de dire « Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel ?» C'est dans l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 34, voici ce que nous lisons. « Marie dit à l'ange, mais comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. » Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle qu'on appelait la stérile est dans son sixième mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Si Isaac n'était pas né, le monde n'aurait pas pu être béni et sauvé. Mais la naissance d'Isaac ne fait que pointer vers le véritable Isaac, l'ultime Isaac, Jésus-Christ, le fils promis par Dieu. Venu pour satisfaire pleinement et définitivement l'exigence de justice de Dieu et nous en revêtir. Qui peut être à la hauteur des attentes de Dieu? Personne parmi nous. Nous sommes comme Abraham, comme Abimélec. Nos vies sont marquées par des chutes et des rechutes. Mais cela n'empêche pas Dieu de nous bénir. Car Jésus le Fils a rempli parfaitement les exigences de justice de Dieu le Père. À la croix, Jésus a vaincu le mal pour nous. Et pour être au bénéfice de cela, Dieu nous demande seulement de placer notre confiance dans son Fils, ce descendant d'Abraham, par qui toutes les nations de la terre peuvent désormais être bénies. Que notre Dieu soit loué pour ça, et que notre Dieu soit loué pour sa merveilleuse grâce. Prions. Père Céleste, nous voulons célébrer ta grâce. Père Céleste, en effet, nous sommes loin d'être meilleurs qu'Abraham. Nous sommes loin de tes exigences. Tu es un Dieu saint, tu ne supportes pas le péché. Nous sommes nés dans le péché. Nous avons grandi dans le péché et nous vivons dans le péché. Mais Père Céleste, dans ton amour, tu as réglé ce problème du péché à la croix. Tu as envoyé ton Fils pour payer à notre place. Et tu nous sauves par ta grâce. Père Céleste, vraiment merci pour cette grâce bienfaisante. Veuille nous aider à ne pas nous en servir comme d'une excuse pour continuer à pécher. Mais que ta grâce puisse, comme ça a été le cas dans la vie d'Abraham, nous transformer et nous amener à l'obéissance, à une joyeuse obéissance. Nous te sommes reconnaissants, nous t'aimons pour cette grâce qui nous a sauvés. Veuille nous aimer à vivre cet amour au jour le jour, là où tu nous as placés. Et je te prie pour ceux qui ne sont pas encore au bénéfice de cette grâce. Je te prie pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore. Veuille les amener à toi et à goûter à la joie immense, à la merveille de la grâce que nous avons en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen.